Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, peut-on encore prendre le pouvoir par la force? Une émission enregistrée en début d'après-midi. Ce devait être une lame de fond, un glissement irrépressible vers la démocratie. Inspiré par les succès des révolutions de couleur en Europe de l'Est, la société civile arabe prend la rue en 2011 et fait chavirer le pouvoir. Les Tunisiens ont raison de Ben Ali. En Égypte, la place Tahrir est fatale à Moubarak. Sur un mode identique, enthousiaste et pacifique, les Syriens manifestent à leur tour. On ne donne pas cher de l'avenir de Bachar el-Assad. 4 ans après, la mécanique est grippée. La Syrie ne sera pas le nouveau laboratoire des transitions démocratiques. Si le pouvoir bascule, ce sera par la force, d'où qu'elle vienne. On parle même désormais de troisième guerre mondiale. Alors 2011 ne fut-elle qu'une parenthèse enchantée. De l'Irak à la Crimée, en passant par le Mali, les raisons d'être pessimiste ne manquent pas. On a pourtant vu depuis aboutir des soulèvements populaires. Ainsi au Burkina Faso l'an dernier, lorsque les manifestants ont réussi à faire plier Blaise Compaoré. Une révolution certes contrariée il y a quelques semaines par un coup d'état militaire, mais le putsch aura vite fait pchit face à une société civile refusant tout retour en arrière. Alors le cas burkinabé est-il le signe que le mouvement de fond évoqué plus haut n'est que momentanément interrompu? Et peut-on encore prendre le pouvoir par la force? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Sadja Popovic, bonsoir. Vous êtes le fondateur du mouvement Otpor, qui signifie en serbe résistance, mouvement non violent que vous avez créé avec d'autres en 1998 et qui a très largement contribué à faire tomber Slobodan Milošević. Vous dirigez aujourd'hui le Canvas Center for Applied Nonviolent Action and Strategies, qui donne des conseils justement aux activistes du monde entier pour essayer de faire aboutir la démocratie. Ces conseils, on peut d'ailleurs les découvrir dans le livre que vous venez de publier aux éditions Payot, « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». Vous nous avez dit bonsoir en français, mais la suite de vos propos seront traduits par Paloma Goulmo, que je salue également. Et puis donc notre deuxième invité, c'est Pierre Asner, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche honoraire au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Je ne vais pas citer tous vos ouvrages, mais simplement le dernier qui sera en librairie à partir de lundi prochain et qui sort chez Fayard, « La revanche des passions, métamorphose de la violence et crise du politique ». C'est un recueil d'articles que vous avez signé ces dernières années. Alors, peut-on encore prendre le pouvoir par la force? Je voudrais commencer avec vous par ce qui nous a semblé peut-être la forme la plus rudimentaire, voire la plus archaïque de prise du pouvoir, à savoir le coup d'État militaire. C'est donc ce putsch finalement avorté au Burkina Faso qui nous a inspiré presque le titre de cette émission. Est-ce que c'est une forme d'incongruité pour vous, Pierre Asner, que de voir encore des militaires essayer de s'emparer du pouvoir?
Absolument pas. Ça, j'étais assez étonné par votre optimisme, ça arrive tous les jours. Il y a des pays comme le Pakistan ou la Turquie où de temps en temps, quand les militaires ne sont pas contents du gouvernement, ils prennent le pouvoir, ensuite ils le rendent ou ils le rendent pas. Et malheureusement, je ne partage pas du tout cette idée optimiste que tout ça c'est le passé. Je pense en particulier en Afrique où il n'y a pas de vraie structure politique. Souvent, c'est les militaires quand ils ne sont pas contents de leurs soldes, etc. Ils se révoltent. Et je pense qu'on est dans un monde beaucoup plus violent que n'a l'air de poser votre question. La question posée par le livre de notre ami, c'est la question inverse. Est-ce qu'on peut vaincre un pouvoir qui est là par la force? Est-ce qu'on peut le vaincre, le faire tomber sans employer la force, par la non-violence?
Alors, on va justement y arriver à cette question. Oui. Mais je voudrais d'abord qu'on reste sur celle-ci. S'il y a quelqu'un qui fait preuve d'optimisme dans son livre, c'est bien vous, Sadja Popovic. Est-ce que vous partageriez le mien sur cette question du coup d'État militaire et de son côté un peu anachronique?
Well, I'm always optimistic about people power.
Je reste toujours très optimiste sur le pouvoir du peuple. Et je pense que c'est une façon de changer les choses. Par exemple, on a pu voir l'exemple de la Serbie et de l'Europe orientale. qui a été donc un mouvement extrêmement important et qui a enclenché un mouvement très important dans les Balkans. Et puis depuis plusieurs années, nous avons travaillé avec d'autres groupes tout autour du monde. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est effectivement cette méthode, ce mouvement non violent peut vraiment mettre en danger des groupes ou des dictateurs. Et il faut comprendre que ce pouvoir non violent peut venir à basculer, à bousculer en fait ces structures de dictateurs ou ces structures autoritaires. Et il faut donc en fait comprendre comment ces activistes peuvent construire ces stratégies et ensuite construire une société à partir de ce premier mouvement. En Tunisie, on a rencontré certainement un succès, mais il faut maintenir, il faut durer sur le temps, il faut pouvoir installer une nouvelle démocratie ou quelque chose de nouveau.
Il faut peut-être aussi semer des graines qui, finalement, si elles ne poussent pas tout de suite, vont finir par germer. Je voudrais vous faire écouter juste un extrait. Je reste encore sur le Burkina Faso un instant. Vous faire écouter un extrait de cette déclaration à la presse extrêmement surprenante du général putschiste burkinabé, Gilbert Diendéré. Au bout de quelques jours, il vient expliquer donc aux médias de son pays que son putsch, ça n'était peut-être pas une très bonne idée.
Le plus gros tort a été d'abord de faire ce putsch, parce que aujourd'hui, lorsque l'on parle de démocratie, l'on ne peut pas se permettre encore de faire des actions de ce genre. Mais enfin, cela s'est passé, nous avons su que le peuple n'était pas favorable à cela, c'est pour cela que nous avons tout simplement abandonné.
Nous avons su que le peuple n'était pas favorable à cela et donc nous avons dû abandonner. Pierre Hassner, est-ce que c'est pas aussi la preuve que quand un mouvement démocratique s'installe dans un pays, même s'il ne s'installe pas durablement, il y a quelque chose d'irrémédiable qui se crée?
Il faut l'espérer, mais enfin, il y a eu beaucoup de retours en arrière. Il y a eu des pays, même comme le Nigeria, maintenant il y a les élections, mais avant il y a eu l'armée, avant il y avait eu des élections, il y a des alternances qu'on a connues dans beaucoup de pays, le Pakistan, la Turquie avant, etc. Récemment encore, en Thaïlande, au Sri Lanka, il y a ça. Donc, si vous voulez, il me semble évident que dire comme Mao, que le pouvoir est au bout du fusil. Heureusement, ce n'est pas toujours vrai, mais l'inverse, que le pouvoir ne peut pas être pris par des coups, c'est au contraire. Monsieur Kadyrov en Tchétchénie, il a été installé par Poutine par la force et il terrorise son pays depuis un certain nombre d'années. Ça arrive malheureusement et il y a beaucoup d'exemples de ça.
Sergei Popovitch, un peuple, je vais vous reposer la même question, mais peut-être de manière un petit peu différente. Un peuple qui a goûté, ne serait-ce que pendant un instant bref, à la démocratie, ne peut plus jamais revenir en arrière? Ou bien est-ce que vous diriez, comme Pierre Hassner, que bah, si, l'actualité nous montre que ces retours en arrière, ils sont extrêmement fréquents?
Well, I would agree with Mr. Pierre very much, and I think
je suis tout à fait d'accord avec ce que Monsieur Pierre Hassner dit. Et je sais qu'il y a tellement de cas où il faut être très fort, où il faut être très solide. Il n'y a pas seulement le cas de Burkina Faso, Pinochet, où il y a eu un régime autoritaire pendant très très long, et maintenant le pays est une vraie démocratie stable. Mais pour répondre à votre question, lorsqu'on dit qu'il y a des cas où les gens gardent le pouvoir et peuvent reprendre les choses en main. C'est peut-être les compétences, c'est peut-être aussi réussir à convaincre les gens. Et puis, il faut aussi être nombreux, parce que plus on est nombreux à être mobilisés, eh bien, on peut sauvegarder cette démocratie. Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont voulu défendre leur vote dans le cas de la Serbie. Quand vous avez un mouvement de masse de cette façon, eh bien, cette victoire, qui est la victoire du peuple, est quelque chose qui doit être partagé. Et on nous dit, ah ben la Serbie, c'est très différent, c'est pas du tout pareil que le reste. Et les gens me disent, mais non, nous, dans notre gouvernement, les bulletins ne sont pas pareils. Et ce n'est pas parce que les gens pensent que, en fait, sont plus doux, sont moins doux, plus violents d'un pays à un autre. Je crois que c'est qu'il y a un vrai mouvement, beaucoup de gens qui appuient, qui sont derrière. Et je crois que si on veut défendre la démocratie, une fois qu'elle est installée, les gens se sentent investis de quelque chose, ils ont gagné quelque chose. Et il y a des valeurs à défendre. Donc, je pense que dans d'autres d'autres pays comme les pays comme l'Ukraine, les gens ont cette valeur, par exemple, qu'ils ont défendue et ils veulent revenir à la démocratie. Et par exemple, en Ukraine, je reviens sur cet exemple, il y a eu donc beaucoup de corruption lorsque l'ancien dictateur est revenu au pouvoir. Les gens ont accepté cela, mais lorsqu'on a voulu leur enlever un peu de liberté, là, ils se sont révoltés. Et je crois que c'est comme ça que l'on peut vraiment faire basculer des gouvernements autoritaires. Alors, tout ce que je dis, par exemple, dans le livre, ce qui est important, ce n'est pas seulement le mouvement, mais c'est les résultats que vous allez obtenir, cette vision que vous avez. Et si l'on veut être beaucoup plus efficace, il faut vraiment penser aux résultats. Et il y a, par exemple, sur la non-violence, on se rend compte que on a simplement, vous avez 4% de possibilité de maintenir une démocratie si on se lance dans la lutte armée. Hein, alors que si elle est non-violente, cette lutte, on arrive à 42%. Donc, plus de gens sont d'accord pour lutter de manière non-violente, meilleur sera le résultat.
Voilà, ça, vous vous appuyez d'ailleurs sur une étude de deux chercheuses américaines qui, effectivement, ont établi des statistiques pour dire, voilà, la violence, de toute manière, c'est beaucoup moins efficace que la non-violence. Vous en pensez quoi, vous, Pierre Hassner?
Je pense qu'on ne peut pas du tout généraliser comme ça. Ce genre de statistiques n'a aucune valeur. Il faut voir du cas par cas et les circonstances. Par exemple, prenez un mouvement que j'ai bien connu, Solidarité en Pologne. C'était non violent. Bon, il y avait une unanimité, quasi unanimité en Pologne, etc. N'empêche que ça a été réprimé, que Adam Michnik a passé 6 ans en prison et que c'est quand Gorbatchev est venu qu'il y a eu le changement qui en Russie est venu par le haut. Donc, il faut vraiment voir les circonstances, parce qu'on ne choisit pas d'être violent ou non-violent et on dit vous avez pris la bonne méthode ou la mauvaise méthode. C'est extrêmement différent selon les cas et selon le type de répression et selon le contexte international.
Il me semble justement que c'est la grande différence entre vos deux approches, Pierre Hassner et Sergia Popovic. Et vous dites, vous, finalement, si je vous comprends bien, Pierre Hassner, tout ne peut pas venir par le bas, par ces sociétés civiles dont on dit qu'elles émergent de plus en plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a des États aussi qui sont des acteurs majeurs de ces jeux-là.
Bien sûr. Et au contraire, si vous voulez, ça me paraît difficile d'être très optimiste quand on regarde aujourd'hui la situation de manière très différente de la Syrie et de l'Égypte, ou aussi du Yémen, un peu de tous les pays, sauf la Tunisie qui elle-même est fragile, comme nous avons pu voir, qui a la plus grande proportion de gens qui vont faire le djihad avec l'État islamique. Donc, il faut vraiment voir que moi, j'ai passé ma jeunesse en Roumanie à écrire sur les murs et rien ne m'est arrivé. Mais on n'a pas non plus descendu le régime communiste, mais on n'a pas été torturé, etc. Quand deux gosses de 13 ans ont écrit sur un mur « Assad va-t'en », ils ont été torturés à mort. Et voilà, alors c'est très bien de dire la non-violence, mais il y a des cas où ça marche et des cas où ça ne marche pas. Et des cas où ça marche, comme témoignage. Par exemple, j'ai un collègue au CRI, Jacques Semelin, que vous connaissez peut-être, qui avait fait un livre « Sans armes face à Hitler ». Et c'est vrai qu'il y a eu de la non-violence face à Hitler. Mais c'est pas ça qui a renversé Hitler. Ce qui a renversé Hitler, c'est l'armée russe et le débarquement des Occidentaux. Mais c'était un témoignage extrêmement important. On peut être très important comme inspirateur, comme martyrs, les martyrs de la religion chrétienne ou autre, avant, sans avoir l'illusion que par là, on va renverser le pouvoir. Mais on est un exemple pour d'autres qui est extrêmement important au point de vue moral, notamment.
Sergia Popovic, est-ce que vous ne comptez pas un peu trop sur la force et la puissance de la société civile? Et est-ce que vous n'en négligez pas un peu le rôle que jouent quand même toujours les États, même si on nous a annoncé depuis quelques années la fin des États, on voit bien que ce sont eux qui sont les maîtres du jeu aujourd'hui.
Je ne crois pas que les États restent les maîtres du jeu. Je pense que les gens ont toujours le pouvoir en main. Et je pense que si à ces gens, vous leur donnez en fait tous les moyens d'exprimer leurs opinions, eh bien, ils se défendent. Et par exemple, pour le cas de la Serbie, tout le monde, en tout cas, les États ont tout fait pour maintenir Milosevic au pouvoir. Ils ont bombardé mon pays, toute la coalition. Et nombre de gens autour de moi sont décédés. Alors, évidemment, évidemment, les États ne nous étaient pas du tout favorables et ils n'ont rien fait pour pouvoir en finir avec Milosevic. Et c'est vrai que finalement, ils nous ont aidés à mener à bien tout le processus électoral et nous ont permis de suivre cette route. Mais je pense que la non-violence marche mieux, fonctionne mieux, et cela a été prouvé. Et je ne peux pas imaginer un seul cas qui serait l'exemple et pourrait nous dire, voilà, la démocratie est venue grâce à la violence. On n'a aucun exemple qui vient justifier cela. Et lorsque vous travaillez avec tous ces gens, avec tous ces activistes, vous pouvez leur expliquer comment ils peuvent obtenir plein de choses à travers des actes non violents, à façon de répondre à la police, peut-être en s'asseyant, en intervenant, en interpellant ces policiers. Vous savez, et nous avons eu des enfants, des femmes qui donnaient des fleurs à ces policiers pour pouvoir les interpeller, les faire réagir. Je crois que c'est une façon de pouvoir faire bouger, de bousculer ces piliers sur lesquels s'assoient ces pouvoirs autoritaires. Et c'est toute une dynamique que l'on met en place. Et si vous voyez la façon dont fonctionnent les forces de sécurité ou les polices, eh bien, ils sont très mal à l'aise lorsque vous utilisez ces actions de non-violence, parce qu'ils sont là pour tuer, pour condamner des actions qui sont nuisibles ou condamnables. Mais là, que peuvent-ils faire? Rien. Et je crois qu'il faut trouver l'espace politique que vous avez et rentrer dans la brèche. Et par exemple, lorsque vous avez parlé de Solidarność, de solidarité, eh bien, par exemple, en Afrique du Sud, il y a eu un mouvement non-violent qui est arrivé à amener ce qu'est maintenant la nouvelle Afrique du Sud. Je crois que ce sont les tactiques, c'est un choix de tactique, c'est un choix politique, et c'est ce que je dis dans le livre. Je crois que la non-violence, ce n'est pas simplement chanter dans des squares ou alors tous la main dans la main défiler. Non, il y a plein d'autres éléments, il y a plein de tactiques, de stratégies à développer pour pouvoir obtenir le résultat. Par exemple, dans le cas du Chili ou d'autres pays, et il y a par exemple, lorsque au Chili, ils ont décidé de conduire lentement, vous voyez, les taxis décidaient de conduire très très lentement, en signe de protestation, on ne va pas arrêter quelqu'un qui conduit lentement, par exemple. Donc il y a plein de façons de pouvoir expliquer, de pouvoir exprimer son opinion. Il faut juste trouver cette brèche et il y a plein de façons de critiquer un régime extrêmement oppressif, et cela a lieu tous les jours dans le monde.
Le cas chilien est intéressant, je pense, parce qu'il y a eu notamment en 1988 un référendum avec une campagne pour oui ou non au maintien en gros de Pinochet au pouvoir. Il y a eu un film qui a été fait il y a quelques années de ça, qui revenait sur les techniques de marketing qui avaient été utilisées pour montrer que ceux qui allaient défendre la campagne du non, donc ceux qui étaient opposés à Pinochet, n'étaient pas des gens qui dénonçaient la torture, parce que les publicitaires qui menaient cette campagne pensaient que ça serait contre-productif, mais il fallait au contraire montrer que voter pour le non, c'était avoir une démarche assez joyeuse, une forme de révolution joyeuse. Pierre Asner, la révolution joyeuse, c'est quelque chose qui marche. Et quand Sergej Popovic nous dit la démocratie n'est jamais venue avec la violence, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des exemples qui diraient le contraire.
Bah, je sais, la Révolution française, par exemple. Au contraire, on en a partout. Mais tout dépend encore une fois des cas. Si je peux revenir même sur le cas chilien, si Pinochet n'aurait pas été jugé et s'il n'y avait pas eu les juges garçons espagnols et les lords anglais qui l'avaient condamné, c'est venu de l'extérieur qu'on a fini le job. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Popovic. Je suis plein d'admiration pour Otpor, je l'ai toujours été, mais je crois que ce n'est pas simplement une question de technique, de rire, etc. Ça dépend des circonstances et de l'adversaire. Il y a un très beau texte de Václav Havel, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Le pouvoir des sans-pouvoirs ». Il montre que c'est dans la phase post-totalitaire où ça a perdu son dynamisme, que si vous aviez voulu faire ça dans les années 50, vous étiez tout de suite fichu. Tandis que là, un épicier qui avait toujours sur son étalage « prolétaire de tous les pays, unissez-vous », un jour il enlève ça et d'autres font comme lui, etc. Et ça a fait un effet. Mais il analyse ça dans le post-totalitarisme, et de même comme Adam Michnik qui a passé 6 ans en prison, disait « c'est plus un régime libéral, mais c'est le même régime, mais il a les dents limées plus ou moins ». Et donc les circonstances comptent. Et il s'agit aussi du contexte international.
Sadja Popovic, vous conseillez de nombreux activistes, je le disais, dans le monde entier, qui viennent vous demander des conseils pour voir comment l'expérience que vous avez menée avec Haute-Port peut leur servir dans les luttes qu'ils mènent. C'est forte réserve que vient d'exprimer Pierre Asner. Vous les entendez régulièrement, hein, vous en parlez d'ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, justement, quand des activistes syriens viennent vous trouver alors que le conflit a déjà dégénéré et que vous leur dites, bah voilà, vous leur parlez de non-violence, et vous dites, bah attendez, ça n'a rien à voir avec ce qu'était la Serbie. À Damas, en Syrie, on torture, il y a des armes. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse la même chose? Qu'est-ce que vous leur répondez et qu'est-ce qui fait que vous arrivez à en convaincre certains?
C'est le premier chapitre du livre, et le premier chapitre dit « ça ne se passera jamais comme ça ici ». Alors ils vont vous donner plein d'arguments. Pourquoi ça ne peut pas marcher en Syrie? L'oppression est beaucoup plus forte. Et pourquoi cela ne marche pas aux États-Unis? Parce que tout le monde va dans les shopping malls, à Walmart. Donc voilà. Je crois qu'effectivement chacun est différent et doit être compris de cette façon. Mais il y a toujours des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir créer son mouvement. Il faut se dire et savoir que même si chaque dictateur a sa personnalité, ils ont tous passent tous par un même mécanisme, la peur. La peur est ce qui leur permet de rester au pouvoir. Également, comme un régime démocratique extrêmement corrompu reste là parce qu'il y a une certaine apathie. Voyez, on retrouve toujours les mêmes éléments. Mais les outils et les compétences, si on peut parler de compétences, sont toujours les mêmes, quel que soit le dictateur. Et c'est vrai qu'il y a des conditions qui sont nécessaires pour remporter ce succès, par exemple, en Serbie ou ailleurs. Mais vous n'êtes pas là simplement pour renverser, par exemple, en Serbie, Milosevic ou Bachar el-Assad, mais vous êtes là pour mettre la démocratie en place. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Également, il faut que le mouvement soit unifié. C'est-à-dire qu'il faut que vous réussissiez à unifier des gens qui ont des avis très différents. Il faut que, également, vous soyez suffisamment convaincant pour que les étrangers vous appuient et que les militaires n'interviennent pas forcément, vous savez. Je sais que si l'on voit plusieurs angles, on peut comprendre quelle est la sortie. Mais il faut voir que l'être humain est plein de créativité et, comme vous le dites, vous savez, ces gens m'ont expliqué plein de fois, ce n'est pas possible, on peut arriver. Mais moi, je me dis que le sens de l'humour permet d'avancer beaucoup parce que ces dictateurs ne comprennent pas du tout le sens de l'humour, ils n'en ont aucun. Et par exemple, il y a l'histoire de solidarité, vous savez, il y avait tous les jours à 7 heures les journaux télévisés où le dictateur expliquait toujours la même chose et les gens en avaient marre de regarder les journaux télévisés. Alors ce qu'ils ont fini par faire, c'est prendre leur télévision et sortir dans la rue avec leur télévision dans des brouettes hein, pour montrer leur mécontentement. Et je crois que, vous savez, le sens de l'humour mène à beaucoup de choses et permet de dire beaucoup de choses. Et c'est ce que nous avons fait, nous, en Serbie, avec beaucoup de créativité, et je crois que cela réunit les gens, oui, et puis on arrive à dire beaucoup comme cela.
Absolument, mais encore une fois, ça dépend des cas. Il y a un livre de David Rousset, revenant des camps nazis, qui s'appelle « Le pitre ne rit pas ». Alors, c'est très bien d'attaquer Assad par le rire, mais voilà, vous êtes torturé. Certains ont peut-être vu au Musée du Monde Arabe les milliers de photos de gens torturés par Assad. Je crois qu'il est assez insensible à l'humour, que c'est pas par l'humour que on pouvait le descendre. Dans d'autres cas, oui. Et pour parler de solidarité, ça j'ai bien connu, j'ai collaboré avec eux, j'ai écrit pour la littérature clandestine des Polonais. Mais enfin, il y a eu le coup de Jaruzelski et Adam Michnik a passé 6 ans en prison. Et c'est quand Gorbatchev est venu et que tout a changé, que ça a changé. Mais solidarité était un mouvement admirable qui avait les 90% du peuple polonais. N'empêche que le coup de Jaruzelski est venu et que ils ont été en prison et ils ont été libérés 6 ans après.
Est-ce que vous pensez, Pierre Asner, que si Solidarność avait 90% du peuple polonais derrière lui, c'était avant tout parce qu'il portait ses aspirations démocratiques ou bien est-ce que parce que ce mouvement répondait à des préoccupations qui étaient peut-être plus matérialistes et quotidiennes, disons? C'est-à-dire qu'un syndicat qui défendait aussi les travailleurs dans leur mode de vie, dans leur niveau de vie, et que c'est aussi comme comme ça que le combat démocratique a pu fédérer autant de personnes?
Je pense qu'il y a eu de ça. Il y avait vraiment l'allusion. Ça avait commencé par des jeunes activistes comme Adam Michnik, Smolar, etc., qui au début se sentaient plutôt isolés. Mais il y a eu des incidents avec des ouvriers. Ils ont fait un comité de solidarité avec les ouvriers. Il s'est créé une sorte de convergence entre les jeunes intellectuels dissidents et les chantiers navals de Gdansk avec Valença, etc. Et ça a très très bien fonctionné. Mais ça n'a pas empêché le coup de Jaruzelski et le fait que c'était fini jusqu'au moment où Gorbatchev est venu et où il y a eu... C'est comme en Allemagne de l'Est, Honecker voulait tirer sur la foule et Gorbatchev a dit non. Donc il faut qu'il y ait une conjonction entre ce qui les conditions. Il y a, et je trouve que ce que le rôle d'Otpor en Serbie est admirable, mais vous n'auriez pas pu le faire à un autre moment.
Bon, alors on a bien compris à Pierre Aster que vous n'êtes pas d'accord en disant voilà, les circonstances historiques sont absolument déterminantes et qu'on ne peut pas mener ces actions à n'importe quel moment. Si je vous posais la question, Pierre Aster, sur la nécessité aussi peut-être d'abord de comprendre les intérêts particuliers qui peuvent être ceux de la base pour ensuite aller vers des combats plus idéologiques, disons, c'est parce que, justement, dans le livre de Serja Popovic, vous expliquez qu'il faut, en général, que ces mouvements commencent de manière modeste, c'est-à-dire viser peut-être des préoccupations qui sont les préoccupations des quotidiens et qu'ensuite viennent les idéaux plus nobles peut-être et qu'en tout cas on ne peut pas mobiliser directement sur ces idéaux.
Well, this is exactly what we are looking at, and
c'est exactement ce qui nous intéresse. Et il y a cette idée selon laquelle, vous savez, les grandes batailles gagnées passent par des petites batailles gagnées auparavant. Et je crois qu'il faut tout de suite comprendre comment on peut atteindre ces 90% qui vont être derrière vous. Et vous savez, il faut commencer un peu comme dans le livre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, avec les hobbits qui partent de la comté et qui vont aller lutter contre les forces démoniaques. Et vous savez, petit à petit, ce mouvement prend de l'ampleur et vous avez de plus en plus de courage. Et je pense que les clés du succès sont les mêmes. Il faut une vision, il faut choisir ses batailles, celles que l'on va pouvoir gagner. Et il faut toujours reprendre les principes de Sun Tzu dans l'art de la guerre. Vous savez, il faut connaître le champ de bataille et il faut vous connaître et connaître votre ennemi. Et souvent, vous savez, on comprend pourquoi, par exemple, la violence ne fonctionne pas avec Assad ou a fonctionné la non-violence dans d'autres cas, c'est parce que vous n'avez pas bien étudié le champ de bataille. Par exemple, si vous vous attaquez à un joueur professionnel de football, vous n'allez pas jouer sur son terrain. Vous allez peut-être lui parler de philosophie, de poésie. Et là, ce n'est plus son terrain, vous pouvez peut-être le battre. Eh bien, il fallait trouver un champ de bataille qui ne correspondait pas ou n'était pas fort, voyez-vous. Et c'est peut-être comme ça que l'on réussit. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ce qui est très important, c'est peut-être trouver ce premier objectif et créer une unité au sein de ces sociétés civiles pour pouvoir aussi interpeller la société internationale, la communauté internationale. Et je pense que tous ces petits éléments permettront de faire grossir le mouvement et d'installer une base dans le pays et hors du pays.
Alors prenons un autre exemple, si vous le voulez bien, qui est celui de la Biélorussie. Ce dimanche, il va y avoir une élection présidentielle. Le président actuel, Alexandre Loukachenko, vise un cinquième mandat. Il a été réélu la dernière fois, c'était en 2010, avec plus de 80% des voix. C'était une élection, on peut pas dire, on peut parler d'élection démocratique, mais enfin, en tout cas, il y avait une opposition, mais enfin, qui était tellement divisée qu'elle n'a pas réussi à faire tomber Loukachenko. Donc, nouveau scrutin dimanche. À quoi rêvent les opposants de Loukachenko? Eh bien, écoutez cet extrait d'un reportage qui a été diffusé le week-end dernier dans l'émission RTL Monde.
Dans son deux pièces d'un vieil immeuble soviétique, Alec et ses amis partagent un thé brûlant et débattent du combat à mener pour la nouvelle élection. Le plus jeune ce jour-là, c'est Alexander. Il a à peine 20 ans, l'âge de la dictature.
Mon père, lui-même, à la fin des années 80, a pris part aux manifestations contre le régime soviétique. Mais moi, je manifeste peu dans les rues. Je suis surtout actif sur Internet, sur Facebook, alors qu'à l'époque soviétique, il fallait faire des pancartes et descendre dans la rue.
Cette jeunesse qui n'a connu rien d'autre que le régime en place milite pour un Maïdan biélorusse, avec les morts en moins. Irina Kalip, elle, est journaliste. Elle donne rendez-vous dans un café discret du parc Gorki et livre ses espoirs entre deux bouffées de cigarettes.
J'aimerais que la Biélorussie devienne libre, quel qu'en soit le prix. Je crois que ça n'arrivera pas sans un Maïdan biélorusse, car des gens comme Loukachenko ne laisseront jamais le pouvoir volontairement.
Voilà, j'aimerais qu'il y ait un Maïdan biélorusse. Ouais, ce reportage était signé Antoine Védaillère et Mathieu Perry. C'est donc diffusé sur, chez nos confrères de RTL. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sergia Popovitch, quand vous entendez par exemple, parler d'un Maïdan biélorusse, on voit à quel point les révoltes ou les révolutions ailleurs peuvent finir par infuser et inspirer les nouveaux mouvements qui se créent dans le monde.
Well, first of all, it's a question of Belarus, and it is exactly the case.
C'est une question de la Biélorussie, en fait. Et c'est le problème de l'unité dans l'opposition. Et je crois que c'est le gros problème. Ils avaient, je ne sais plus combien, 15 candidats qui étaient qui opposés donc au président. Donc, il y a aussi le rôle que doit jouer la communauté internationale. Et c'est vrai que, par exemple, chaque pays a son opposition, son nombre de partis qui vont présenter des listes. Et je crois que le comité international, en tout cas, n'a pas été à la hauteur lorsqu'il s'agit de défendre les droits civils, les droits basiques des gens. Il me semble que actuellement, par exemple, les technologies dont on a entendu parler, Internet, les réseaux sociaux, changent les choses. Parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus sûr, beaucoup moins cher. On peut réunir les gens derrière les réseaux sociaux, mais en même temps, on perd beaucoup. Par exemple, en Chine, on n'arrive pas du tout à réunir les gens avec Internet. C'est très compliqué. Poutine a une armée de trolls qui mettent des commentaires désagréables sur les réseaux sociaux. Donc, l'Internet est vraiment une arme à double tranchant. Et je crois qu'il faut vraiment revoir une partie que l'on voit, par exemple, dans le livre. Vous savez, ce qui est très beau avec, par exemple, les réseaux sociaux, c'est que, par exemple, il y a cette vidéo qui passe sur le Venezuela, qui explique la pression, qui explique la situation terrible que sont en train de vivre les Vénézuéliens. Et ce que nous faisons, par exemple, nous, dans Canvas, dans notre organisation, c'est de comprendre comment on peut utiliser ces différentes nouvelles technologies et comment nous pouvons... Nous expliquons aussi aux gens qu'il faut revenir sur quelque chose de plus traditionnel dans les mouvements et qu'il faut mélanger les deux. Et je crois qu'il y a beaucoup à trouver, en fait, dans cette nouvelle technologie, mais pas toute seule. Et puis, il y a un échange horizontal qui peut être établi à travers ces nouvelles technologies.
Pierre Asnera.
Oui, mais encore une fois, on ne peut pas tout mettre sur la question de la tactique et qu'on va apprendre ceci et être un révolutionnaire non violent professionnel qui donne ses recettes aux uns et aux autres.
On voit bien en même temps que ces mouvements-là, ça inspire les activistes du monde entier.
Oui, ça inspire.
Il y a un capital qui existe.
Prenons des cas concrets. Les 90%, ils y étaient en solidarité, néanmoins. Moins, il y a eu le coup et c'est et ils ont tous été en prison et c'est seulement quand ça a changé en Union soviétique qu'on a pu avoir les fruits de ça. Mais si vous prenez le cas égyptien, on était tous. J'ai fait un entretien dans leur esprit qui s'appelait Renouveau de l'espérance démocratique. On a dit ah vous êtes bien optimiste etc. Mais les gens qui connaissaient le pays disaient les jeunes ça sera le petit poussé entre les islamistes et les militaires. Et ils ont été assez vite, pendant tout le printemps, je me demandais ce qui serait mangé à la sauce islamique ou à la sauce militaire. Ils ont été mangés successivement aux deux.
S'agissant d'Égypte, Pierre Asnera, en octobre de cette même année 2011, vous écriviez ceci en disant, bah voilà, peut-être qu'effectivement on commençait à avoir les signes que cette révolution n'était pas aussi aboutie qu'on l'espérait.
Moi, je l'ai écrit en mars. Je l'ai dit dans Le Monde en mars.
Oui, mais alors moi, j'ai trouvé d'autres propos de vous qui datent du du mois d'octobre. Vous allez me dire si vous les signeriez à nouveau de la même manière. Il se peut fort bien que, comme les révolutions européennes de 1848, ces révolutions arabes, et notamment la révolution égyptienne, soient vaincues pour le temps d'une génération, mais en ayant semé les graines d'une future libération. Est-ce que vous pensez toujours que les graines ont été semées pour une future libération en Égypte et dans le monde arabe ?
Je l'espère, oui, je l'espère. Parce que c'était très frappant, si vous prenez 48, si certains de nos auditeurs connaissent peut-être l'éducation sentimentale de Flaubert, qui montre exactement la même atmosphère de joie, de plaisanterie, etc. Après quoi, la bourgeoisie et le général Cavaignac sont venus et ont fait un bain de sang, et voilà. Et puis ensuite, on a eu Napoléon III. Je crois que tout ce que font les non-violents est admirable, mais on ne peut pas faire, comme il y avait la technique du coup d'État, la technique de la non-violence, et si les Chinois n'ont pas abouti, c'est parce qu'ils avaient une mauvaise tactique. Et si les Égyptiens n'ont pas abouti, c'est parce qu'ils avaient une mauvaise tactique. Pendant tout le printemps, on voyait bien les gens qui connaissaient l'Égypte, ils disaient que ça sera le petit poucet qui sera pris entre les islamistes et les militaires. Et finalement, ça a été d'abord les islamistes et ensuite les militaires. Donc il faut prêter une grande attention à ce mouvement, qu'il y a ces mouvements par les réseaux sociaux, etc. Ça se répand partout et ça suscite notre enthousiasme de ces jeunes qui pensent pour la démocratie, etc. Mais il y a des forces qui n'admettent pas la plaisanterie et qui rassurent les gens qui ont peur que tout ça soit mauvais pour le tourisme, etc. Et à un moment donné, les jeunes héros se trouvent isolés. Et c'est pas simplement parce qu'ils étaient divisés ou parce qu'ils n'ont pas entendu les leçons de tactique qu'il fallait.
Serge Popovitch.
It's exactly the strategy and it's a long-term vision of the society.
Je pense que ce n'est pas seulement une stratégie, mais on parle aussi d'une vision de société à très long terme. Si vous tournez vers la Serbie, nous avions dès le départ une idée de transition. Nous savions très bien où nous mettions les pieds. Et après le 5 octobre, le président a prêté serment et nous avons négocié avec les autres partis pour pouvoir former un gouvernement de coalition. En 2003, mon grand ami et mon mentor politique, un des plus grands hommes de Serbie, M. Divnik, a été tué parce qu'il avait essayé de mener à bien la démocratie. On voulait mettre un terme à cette révolution démocratique. Mais cela n'a pas arrêté le processus puisqu'il était déjà bien enclenché. La façon dont vous changez les choses, c'est vraiment en pensant à l'avenir, en mettant déjà les pas, en pensant à vos prochains mouvements, à vos prochains pas. Bien évidemment, le problème des Égyptiens, c'est que leur seul objectif était de renverser Moubarak. Et ils ont réussi. Ils ont atteint leur objectif. Mais est-ce que les choses auraient été différentes s'ils avaient eu comme objectif d'installer la démocratie en Égypte? Eh bien, ils auraient peut-être pensé les choses différentes. Ils auraient peut-être installé avec eux les islamistes et les militaires. Je crois que ce n'est pas simplement comment vous réunissez les gens, quel est le mouvement que vous avez, qui vous arrivez à réunir autour de vous. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires pour la victoire, il faut la colère, certes, mais il faut aussi l'espoir. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça a été dit par des gens beaucoup plus importants que moi. Vous savez, nous ne sommes pas totalement en plein désaccord. Je pense que le sens de l'humour fonctionne et je sais que nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Et je pense que cela met fin à la peur.
Serge Popovitch, comme je sais que vous aimez beaucoup la musique, vous ne voulez pas terminer sans vous passer un extrait, alors que vous n'évoquez pas dans votre livre, vous parlez, du groupe Rim Tutti Kutti. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, ça vous fait beaucoup rire. Groupe, qui en tout cas vous a fait prendre conscience qu'il fallait changer des choses en Serbie. Et puis à la fin du livre, vous évoquez la chanson de Peter Gabriel à propos de Steven Biko, qui était ce militant sud-africain. Moi, je vous proposais Sun City, c'était un disque des années 80 qui avait été créé par un collectif d'artistes qui expliquait que non, nous n'irons pas jouer à Sun City, qui est une espèce de complexe touristique en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Et les artistes, à force de dire qu'ils qu'il n'irait pas et donc qu'il ne permettrait peut-être pas à ce complexe de continuer à recevoir des subsides des touristes étrangers ont peut-être eu aussi leur rôle à jouer dans la fin de l'apartheid et dans la libération de Nelson Mandela. Mandela qui reçut, je vous le rappelle, en 1993 avec Frédéric de Clercq le prix Nobel de la paix. Demain, c'est justement la remise du Nobel de la paix. On verra bien qui sera le lauréat ou la lauréate de cette édition 2015. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux. Pierre Hassner, La revanche des passions chez Fayard. Sergia Popovic, Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes, c'est chez Payot. Un grand merci également à Paloma Goulmo pour sa traduction de vos propos. L'équipe du Grain, c'est Fanny Richet, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Cyril Baer, Nafsika Papanikolaou. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son, aujourd'hui, Élise Le. Demain, nous nous demanderons en quoi le port du voile est compatible ou pas avec le combat féministe. Tout de suite, c'est Ping Pong, Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Bonsoir.